Bonsoir. L'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne et l'Organisation internationale de la francophonie ont appelé les acteurs politiques congolais de ne ménager aucun effort dans le respect de la Constitution pour assurer la tenue réussie des élections. Dans un communiqué publié la semaine dernière, les quatre organisations ont souligné l'importance du dialogue et de la recherche d'un accord entre les acteurs politiques. En réaction, le G7 souscrit à l'idée des négociations directes entre acteurs politiques plutôt qu'au dialogue proposé par le président Kabila. Quel est le cœur de cette situation? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 22 février 2016 pour en parler. Je reçois dans cette émission pour le débat Didier Molicho, député national et cadre du MSR, voilà, parti politique de l'opposition. Il est secrétaire exécutif du G7. Monsieur Molicho, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Dieudonné Mwenze, député national honoraire, cadre du PPRD et communicateur de la majorité présidentielle. Monsieur Mouzé, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et Joseph Kongolo, il est analyste politique. Monsieur Kongolo, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous suivre par son RDC sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
L'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne et l'Organisation internationale de la francophonie ont appelé mardi 16 février dernier, dans un communiqué conjoint, les acteurs politiques congolais de ne ménager aucun effort dans le cadre de la constitution de leur pays pour assurer la tenue réussie des élections, préserver la paix et approfondir la démocratie, y compris à travers un processus politique. Les quatre organisations ont souligné l'importance du dialogue et de la recherche d'un accord entre les acteurs politique. Berry Lutaka pour les détails.
Dans leur communiqué commun, l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne et l'Organisation internationale de la francophonie ont insisté sur l'importance cruciale que revêtent les scrutins en RDC, dont le déroulement dans les conditions requises de paix, de transparence, de régularité et à bonne date contribuera grandement à la consolidation des progrès enregistrés par la RDC depuis une décennie. Les quatre organisations ont souligné, je cite, l'importance du dialogue et de la recherche d'un accord entre les acteurs politiques dans le respect de la démocratie et de l'état de droit. Fin de citation. Les quatre organisations partenaires à la RDC ont aussi exhorté l'ensemble des acteurs politiques congolais à apporter leur entière coopération à Edem Kodjo, l'émissaire de l'Union africaine, en vue de la tenue d'un dialogue politique. En réaction, le groupe des sept partis politiques qui ont quitté la majorité présidentielle considère que l'organisation des scrutins à bonne date équivaut à les tenir dans les délais constitutionnels. Le G7 souligne que passé ce délai se créera la vacance du pouvoir au sommet de l'État et dont seul le président de la République portera la pleine responsabilité. Dans ce contexte, à en croire ce communiqué, les élections devront être organisées sous la responsabilité d'un président intérimaire et dans un délai ne dépassant pas les 120 jours conformément aux disposition des articles 75 et 76 de la Constitution du pays. C'est dans ce contexte, enfin, que le G7 souscrit à l'idée des négociations directes entre acteurs politiques plutôt qu'à celle du dialogue soutenu par le président de la République. Enfin, le G7 demande à la communauté internationale de tout mettre en œuvre afin que le président Kabila respecte la Constitution et libère la démocratie et le processus électoral, gage de l'unité nationale, de la paix, de la stabilité et du développement durable. C'est une citation que je referme.
Merci, Berry Franklin Lutchaka. Didier Molicho, je rappelle que vous êtes député national et cadre du MSR, parti de l'opposition. Vous êtes secrétaire exécutif du G7. Comment vous avez accueilli d'abord ce communiqué de ces quatre organisations internationales?
Merci beaucoup, madame, pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer à ces sujets. Nous avons accueilli favorablement ces communiqués de quatre organisations, comme nous l'avons dit dans notre communiqué de presse, parce que nous avons constaté qu'il y avait beaucoup d'éléments de convergence entre ce que le communiqué a repris et la lettre que le G7 et la dynamique de l'opposition avait adressé à Madame Zuma à la suite de son communiqué de presse qui avait aussi désigné Monsieur Edem Kodjo. Donc pour nous, comme il y avait beaucoup d'éléments de convergence, on a accueilli favorablement ces communiqués et nous l'avons dit dans notre communiqué de presse.
Alors ces organisations internationales soulignent l'importance du dialogue et la recherche d'un accord entre acteurs politiques congolais, dialogue que vous refusez et vous proposez à la place des négociations directes entre les acteurs politiques.
Il faut qu'on se comprenne. Les communiqués de quatre organisations parlent du dialogue entre acteurs politiques. Mais le dialogue dont il est question depuis deux mois dans ces pays, c'est un dialogue politique inclusif qui est un forum, qui est une structure. Nous, nous nous opposons à ces dialogues nationaux inclusifs, forum, qui se substituerait aux institutions parce que pour nous, il n'y a pas de crise institutionnelle au niveau du pays. Vous vous souviendrez que ces dialogues a été initié au mois de juin, convoqué au mois de décembre, et on a même défini les thèmes qui devraient faire l'objet de ces dialogues. Entre autres, le financement des élections, la sécurité des élections.
Le processus électoral.
Oui, le processus électoral est pris en charge par des institutions de la République. La CENI est responsable de l'organisation des élections, le gouvernement est responsable du financement des élections et de la sécurisation des élections. Donc, pour nous, nous avons estimé que les organes ou les institutions étant en place, qu'il n'y avait pas une crise qui pouvait justifier qu'on mette en place un forum extra-constitutionnel pour discuter des questions qui sont de la responsabilité des institutions. Mais les dialogues dont parlent les quatre organisations, parce que vous pouvez relire les communiqués des quatre organisations, nulle part, on a fait référence au dialogue national inclusif. Ils ont parlé d'un dialogue entre acteurs politiques en République démocratique du Congo. Il faut qu'on se comprenne, parce qu'il faut qu'on évite de faire l'amalgame. Chaque fois qu'on va parler du dialogue, il ne faut pas dire que toute fois qu'on parle d'un dialogue, c'est le dialogue national inclusif dont il est question en République démocratique du Congo.
Et les négociations directes que vous proposez entre acteurs politiques congolais vont porter sur quoi?
Madame, vous vivez dans ces pays et vous vous rendez bien compte que nous sommes à quelques mois de la date butoir pour l'organisation des élections qui ont des délais dans la Constitution. Et en tant que filles et fils de ces pays, on doit se poser des questions. Qu'est-ce que nous faisons pour tirer la sonnette d'alarme? Nous, au niveau du G7, on a toujours défendu le respect de la Constitution, comme toute l'opposition et une bonne partie de la société civile. On a toujours défendu que les élections doivent se tenir dans le délai constitutionnel. Et c'est ce que les quatre organisations ont repris dans leur communiqué. Mais nous nous attirons l'attention sur le fait que, aujourd'hui, si on y prend garde, nous allons arriver le 19 décembre sans qu'il y ait élection du président de la République. Et si on
arrive... Les négociations vont porter sur le respect de la Constitution. Vous n'allez pas évoquer des questions liées au processus électoral?
Mais le respect de la Constitution, le processus électoral...
C'est
dans
pas
le
différent
cas,
du dialogue que le président de la République
C'est très, très, très différent du dialogue que le président de la République veut convoquer. Le président de la République veut appeler à un forum, une structure qui a des organes, comme on en a connu à Sand City, comme on en a connu pendant les concertations nationales. Vous êtes d'accord avec moi que ces forums-là, cette structure avec tous ces organes, c'est différent des négociations. Les négociations n'ont pas d'organes, les négociations n'ont pas de structures, les négociations n'ont pas tous ces éléments.
Et ça sera entre qui l'opposition et la majorité?
Les négociations, comme le communiqué des quatre organisations l'a bien souligné, c'est entre acteurs politiques. Vous avez vu vous-même, madame, que même les quatre...
Opposition en majorité ?
Les quatre organisations ont bien clarifié la chose. C'est entre acteurs politiques. Dans une démocratie, les acteurs politiques sont définis. Vous avez une majorité, vous avez une opposition.
Sans médiation. Ça sera entre vous, vous allez vous parler entre vous, il n'y aura pas de médiation.
Rien oui, mais tout. Une négociation, elle se passe toujours avec une médiation. Hein. Comment vous pouvez faire une négociation? La négociation, par définition, c'est que vous avez des positions opposées. Et vous devez négocier. Et quand vous négociez, vous avez nécessairement besoin qu'il y ait une médiation.
Merci Didier Molicho, Dieudonné Mouenzi. Vous êtes député national honoraire, cadre du PPRD et communicateur de la majorité présidentielle. J'y arrive. Vous, comment vous avez accueilli le communiqué de ces quatre organisations internationales?
Madame, je dois vous dire sincèrement que nous avions accueilli avec joie, en même temps avec tristesse, le communiqué de presse de G7 comme réaction par rapport au communiqué conjoint des quatre organisations internationales. J'ai parlé de l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine et l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Mais pourquoi nous avons accueilli ça avec joie? Nous avons accueilli avec joie puisque nous sommes rendus compte que les amis avec qui on était hier, les membres de G7, qui après avoir claqué la porte de l'AMP n'est juré que par l'absence du dialogue hier, aujourd'hui semble évoluer puisque du moins ils parlent des négociations.
Différent de votre dialogue.
Oui, ils parlent quand même des négociations. Négociations, ça veut dire que les gens vont se parler pour négocier. Je l'ai entendu de la part de l'honorable Didier. Mais un peu avec tristesse puisqu'ils sont revenus beaucoup plus avec les jeux de mots. Hein, je crois que ce pays, n'allons pas le gérer avec un peu une politique de cache-cache, un peu comme une politique de l'Autriche. Je crois qu'il faut avoir le courage de s'assumer en tant qu'opérateur politique. Et je pense qu'il y a aussi bien des têtes pensantes dans le groupe de G7, que parler des négociations directes et des dialogues politiques, je crois qu'il n'y a pas trop de nuances. J'entends qu'il y a trop de différences, on parle des organes. Je crois que ce qui est important, ce ne sont pas les organes. Ce qui est important ici, c'est l'objectif. L'objectif, que ce soit pour le dialogue ou pour les négociations, c'est baliser le chemin pour le processus électoral crédible. Vous avez posé la question et j'ai vu l'honorable Didier répondre à cette question avec beaucoup de peine. La vérité, c'est quoi? C'est que l'on pense toujours, j'ai entendu beaucoup plus de conditionnels, l'on pense toujours que le dialogue convoqué par le président Joseph Kabila est serré, aurait serré. Non, il ne faut pas trop faire de conditions. Le conditionnel ne va pas nous avancer. Le problème, c'est qu'il ne faut pas aussi beaucoup supputer sur le contenu du dialogue, alors que le chef de l'État a été clair en parlant du financement, de l'organisation du processus électoral, de sa sécurisation. Et quand on commence à supputer au-delà de ces thèmes, je crois que là, ça pose problème. Et je voudrais ici...
Ce dialogue traîne quand même, annoncé depuis novembre,
nous sommes presque de mars. Je vais y revenir. Voilà les choses qui font traîner le dialogue. Cette sémantique que nous amène le G7, de comprendre que les négociations paritaires directes sont totalement différentes du dialogue.
Le communiqué est sorti il n'y a pas longtemps, c'est depuis novembre, monsieur.
J'ai dit entre autres, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de couacs qui ont bloqué ce processus jusqu'à ces jours. Ils ne sont pas premiers aujourd'hui à dire ou à lancer ce communiqué. Je vous ai dit ouvertement que le 14 septembre, lorsqu'ils partaient de la majorité présidentielle, leur discours était que nous ne voulons pas parler du dialogue. Ils le disaient ouvertement. Alors que hier, c'était des gens avec qui nous étions ensemble, lorsque le chef de l'État commencer les consultations en juin 2015, nous étions avec nos amis de G7 et je rappelle que l'honorable Didier Molicho était notre secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle. Donc ça veut dire que tout ce que nous étions en train de concocter avec le chef de l'État et sa famille politique, depuis tout ce temps, jusqu'au mois de juin lorsqu'ils commençaient les consultations, jusque les jours où ils sont partis en septembre, nous étions ensemble avec eux et ils étaient en train d'adhérer à ce schéma, mais simplement pour des raisons purement politiques. quittent. Ils comprennent qu'ils quittent la barre et ils doivent prendre d'autres positions. Ils n'ont
juré. Je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole, honorable Modicho.
S'il vous plaît, c'est important, j'ai la parole.
Allez-y.
Je jure que sur l'absence du dialogue, mais comme ils constatent qu'en dehors des quatre organisations qui viennent de se prononcer maintenant, nous ne devons pas oublier que hier, c'était Ban Ki-moon qui s'était prononcé en faveur du dialogue. Nous ne pouvons pas oublier également que sa sainteté pape et François s'était également prononcé en faveur du dialogue. Et tant d'autres d'ailleurs qui se sont prononcés en faveur du dialogue. Mais aujourd'hui, ils viennent avec les mots. Je crois.
Selon l'honorable Molicho, le
oui,
dialogue
je vous ai dit
parle...
ça au G7. Je
le dialogue dont parle ces quatre organisations n'a rien à voir avec celui
non,
sur le chef de l'État.
Non, mais on parle toujours du dialogue. Le communiqué est clair, vous l'avez, j'ai ici l'exemplaire. On parle du dialogue. Ban Ki-moon a parlé du dialogue. Et même Pape François a parlé du dialogue. Et aujourd'hui, elle parle des négociations. Mais je voudrais m'adresser au G7 et à tous ceux qui résistent encore. Non, honorable Mouricho, je crois que nous devons construire ce pays et avoir une politique transparente, une politique objective et une politique responsable. Les négociations paritaires directes ne sont pas totalement différentes du dialogue national, politique national inclusif, puisque vous reprochez le caractère inclusif. Vous voulez que ce soit des négociations
entre
acteurs politiques, et il a dit clairement, entre opposition et majorité. Mais où est-ce que vous mettez dans ce processus électoral la société civile? Elle est aussi partenaire importante. Moi, je ne crois pas que l'on puisse penser que la société civile, dans le processus électoral, je parle bien, je ne parle pas de partage de pouvoir, puisque je sais qu'il y a des fins négociateurs au G7 qui ne jurent que par le partage de pouvoir et qui croient que quand on associe les autres, s'il vous plaît, et qui pensent que
j'ai encore le temps,
je sais qu'il y a des faits négociateurs dans le G7 qui ne jurent que par le partage du pouvoir et qui croient que la présence
merci
de la société
Dieu
civile
merci
peut diminuer
Monsieur
les gâteaux. Je crois que ce
merci
n'est pas
Monsieur Moïse, s'il vous plaît, merci. Joseph Kongolo, comment vous analysez-vous cette situation?
Bien, d'abord, je dis merci. Je salue mes aînés qui sont ici. L'honorable Didier, l'honorable honoraire Moïse. Je voudrais d'abord dire que le communiqué des quatre organisations internationales, elle a été publiée le 16 février. Et d'abord, je me demande quelle est l'opportunité de faire un communiqué aussi important à la date où, à date un peu historique, en quelque sorte, qui a créé des divergences, qui a déchiré la classe politique congolaise. Pourquoi ce communiqué ne pouvait-il pas venir avant? Il est arrivé à une date conflictuelle. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est vrai, l'honorable Moïse vient de le dire, il y a un débat sémantique qui risque de perdre l'essentiel, n'est-ce pas? Et dans ce débat sémantique, je crois qu'on l'a souligné clairement dans les deux interventions de mes prédécesseurs, le dialogue inclusif du président de la République, le dialogue de l'UDPS, c'est-à-dire avec un facilitateur international qui n'est pas celui du président de la République, les négociations entre acteurs politiques, je crois que c'est un contenant qui déchire, alors que nous ne sommes pas encore sur le contenu qui semble, à mon avis, et peut-être de l'avis de plusieurs, essentiel pour essayer de préserver des acquis et en même temps garantir l'avenir. Et ce débat sémantique, il est fait sciemment. Sciemment, c'est-à-dire on tourne autour du pot. Même le communiqué des quatre organisations internationales, ils ont mélangé.
Sciemment par les acteurs politiques congolais et par la communauté internationale.
La communauté internationale a voulu contenter tout le monde. On parle du respect de la Constitution, on parle en même temps du dialogue, on parle en même temps d'un processus, enfin du respect de la Constitution, hein, des délais constitutionnels. En quelque sorte, on parle du respect de la Constitution, c'est-à-dire on parle toute la Constitution. Or, le véritable débat, c'est à ce niveau-là qu'il se trouve. Je crois qu'ils ont équilibré leur communiqué, une manière de contenter les uns les autres, mais sans véritablement résoudre le problème. Et là encore, nous sommes au niveau du contenant, c'est-à-dire de la forme tout simplement de ce qui devra avoir lieu, et on se déchire encore là-dessus alors que le contenu nous attend, l'essentiel nous attend. Voyez-vous? Et moi je pense qu'il faut aller droit dans le but. Il faut aller droit dans le but.
C'est-à-dire...
Aujourd'hui, la situation actuelle, la situation présente, nous situe à un point où il y a plus de risque de ne pas avoir les élections à la date. Il y a aussi la possibilité d'avoir ces élections à la date si les acteurs politiques, chacun ou tous ensemble, savent jouer le jeu. Si l'intérêt, c'est l'intérêt de la nation, l'intérêt du peuple, qui est au premier point, il y a lieu de se mettre d'accord et d'aller dans le même sens. Mais si, au-delà des intérêts du peuple, au-delà de l'intérêt général, se trouvent placés les intérêts individuels, les calculs personnels, les positionnements, en ce moment-là, on n'arrivera pas au dialogue, on va se déchirer, et après le 19 décembre, s'il n'y a pas alternance, il n'y a pas passage civilisé du pouvoir, comme ça a été dit, je pense que nous allons tomber dans une situation d'illégalité et d'illégitimité, la situation la plus difficile à contenir pour un État, et particulièrement un État issu de conflits, post-conflits comme le nôtre. Il a été démontré clairement que 5 ans plus tard, si ce processus n'est pas bien protégé, bien géré, le même pays retombe, n'est-ce pas, dans les mêmes conflits. On l'a vu. Après le RCD, on est venu avec le M23 parce qu'on n'a pas bien géré ce processus, voyez-vous, donc de stabilisation du pays, ainsi de suite. Donc, il y a encore de risques que, si on n'arrive pas bien à gérer cette fin du mandature, de la deuxième mandature du président de la République, nous avons le risque de retomber encore dans des conflits.
Alors, comment bien gérer cela? Est-ce qu'il faudra... Il faudrait une rencontre, je ne voudrais pas appeler ça dialogue ou négociation. Est-ce qu'il faudrait une rencontre entre les Congolais pour trouver une solution, comment débloquer le processus électoral?
Madame, et l'opposition et la majorité, ils ont accepté le principe de rencontre. Ils ont accepté le principe de rencontre. Je crois que c'est au niveau du format, au niveau de la facilitation, là où il y a plus de couacs. En plus, je crois que même si ça se fait au niveau de la CENI, comme ça a été à bâton rompu hier avec l'opposition, tout le monde est d'accord que ce soit la CENI, par exemple, qui les organise dans le cadre de la tripartite. On dit que la tripartite, sa faiblesse, c'est qu'elle n'a pas intégré la communauté, la société civile. Mais au niveau, par exemple, de la CENI, tout le monde est d'accord, par exemple. Donc, moi, je crois que c'est un problème de responsabilité. C'est un problème de gestion responsable de ce processus. Et si les acteurs politiques, qu'ils soient de la majorité, qu'ils soient de l'opposition, arrivent tout simplement à définir l'objectif ultime, vous allez constater que c'est le même objectif à la fois pour l'opposition et pour la majorité. C'est juste les moyens pour y arriver, n'est-ce pas, qui déchirent les uns les autres, parce que entre les objectifs, n'est-ce pas, et les acteurs politiques, il y a un chemin à faire, et ce chemin, il est fou de boue, il est fait de la boue, il est fait de la sueur, il est fait aussi, n'est-ce pas, de beefsteak. Comprenez? Et on se déchire là-dessus, mais en réalité, avoir l'objectif, tous ont droit de se mettre ensemble, n'est-ce pas, et de trouver une voie de sortie.
Merci, Joseph Congolais, Congolo plutôt, honorable Didier Molichon. On va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
Abdoul Makassi depuis Kisangani. Lorsque toute une communauté internationale se préoccupe de la question du respect de la constitution congolaise, normalement, ça doit nous interpeller plus nous qui sommes les concernés directs de la dite constitution. Mais lorsque les effets proposent l'idée de négociations directes entre les acteurs politiques congolais, je doute fort que ce schéma peut nous amener au respect de la constitution, mais plutôt au simple partage des gâteaux entre les acteurs politiques.
Réaction.
Merci madame. Je crois que notre compatriote utilise le même discours de partage des gâteaux que l'honorable Dieudonné a utilisé. Madame, moi qui vous parle, je suis du G7. Le G7 est composé des partis qui ont quitté la majorité et dont les membres ont démissionné des postes. Donc, pour nous, ce n'est pas les postes qui nous intéressent, c'est l'intérêt général qui nous intéresse. C'est pour cette raison que moi je pense qu'il faut arrêter avec les contre-vérités. L'honorable Dieudonné a dit, ils étaient avec nous, ils avaient un autre discours. Mais là j'ai répondu à notre compatriote, nous si nous allons pour les négociations, c'est pour que les élections se tiennent dans les délais constitutionnels, c'est pour que la constitution soit respectée. Nous étions encore dans la majorité. Je vais vous lire, heureusement que j'ai amené avec moi la correspondance du 14 septembre que nous avons adressée au président de la République, et la correspondance qui a entraîné notre exclusion, ce que les autres appellent auto-exclusion, parce qu'ils sont champions dans la sémantique.
Quand vous excluez quelqu'un, vous appelez auto-exclusion. Quand vous créez un forum extra-constitutionnel, vous appelez dialogue à confondre avec les négociations. Qu'est-ce qui était dit dans cette lettre? Au point 16. À n'en point douter, le dialogue projeté sera voué à l'échec s'il est assis sur une volonté ferme de tous d'affirmer l'intangibilité de notre Constitution et d'en respecter les dispositions en ce qui concerne particulièrement les valeurs fondamentales de solidarité nationale, des libertés d'expression et de manifestation, les échéances électorales et l'alternance politique. Qu'est-ce qui a changé depuis? Nous avons gardé la même position. Jusqu'aujourd'hui, nous avons dit nous ne sommes pas pour un dialogue qui va violer la Constitution. Nous ne sommes pas pour un dialogue qui va amener que les élections ne se tiennent pas au-delà des délais constitutionnels. Nous ne sommes pas pour un dialogue qui va conduire le pays dans une situation de vide, dans une situation...
Mais pourquoi vous pensez que ce dialogue va favoriser le glissement?
Mais, madame, ce dialogue, vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, initié depuis le mois de juin.
De novembre.
Depuis le mois de juin 2015, initié. Convoqué au mois de novembre. Et pour nous, nous avons toujours dit, parce qu'ils disent que c'est un procès d'intention. Là, je vous ai lu une correspondance du mois de septembre, quand on était encore ensemble. C'est pour dire que, pour nous, depuis ce moment-là, ça n'a jamais été un procès d'intention. Pour nous, on a toujours considéré que le dialogue, tel qu'il est initié, est une stratégie de conservation de pouvoir. Et dans la même correspondance, on a attiré l'attention sur cette stratégie qu'elle était chaotique. Dans la même correspondance, nous étions encore dans la majorité. Donc, pour dire à mon collègue Dieudonné que les gens du G7 sont, comme il a dit lui-même, des responsables. On attire l'attention sur les risques qu'encourt notre pays. En septembre, nous avons attiré l'attention, quand on était dans la majorité, pour dire que cette stratégie était une stratégie suicidaire. Et aujourd'hui, on continue à le dire. Et aujourd'hui, quand vous dites, oui, on va exclure les gens dans les dialogues, aujourd'hui, les Congos, comme hier, à la conférence nationale, comme hier, pendant toutes les négociations, les Congos est bipolarisé, même cette société civile. Elle est bipolarisée. C'est une société civile pro-dialogue et une société civile qui ne va pas au dialogue.
Vous estimez que la société civile n'a pas sa place dans ces négociations?
Nous ne disons pas ça. Nous disons ceci. Aujourd'hui, la société est bipolarisée. Nous, nous sommes avec la société civile. Le Front citoyen est constitué par les organisations de la société civile. Ils sont contre les dialogues. Et eux, ils sont avec la société civile, une partie de la société civile qui est pour les dialogues. Ce n'est pas une question ici de commencer à jouer avec les mots « oh, ils ont exclu ». Nous n'excluons personne. Nous nous disons tout simplement que nous, nous sommes pour le respect de la Constitution, nous sommes pour la tenue des élections dans le délai. Mon compatriote de Kisangani, il doit comprendre que nous, nous avons quitté les postes. Pour nous, les négociations ne doivent pas déboucher à un
partage. Et ça devrait commencer quand ces négociations que vous proposez?
Le plus tôt serait le mieux pour que les élections se tiennent dans les délais constitutionnels. Parce que pour nous, arriver le 19 décembre, et la Constitution elle est claire.
Vous proposez une transition?
Il n'y a pas de transition, la Constitution ne parle pas de transition. Nous nous disons respect de la Constitution, rien que la Constitution. La Constitution ne parle pas de transition. Vous allez dans les dispositions de l'article 75 et 76 de la Constitution qui sont claires, madame.
Merci.
Pour nous, pas de transition, pas de partage de postes, respect de la Constitution.
Merci, Didier Molichot, de donner moins d'heures. On va prendre pour vous aussi cette réaction qui nous vient de Bukavu, Sud Kivu.
Amos, ici, moi, j'appelle la partie de la ville de Bukavu, province du Sud Kivu. En analysant l'appel de ces quatre organisations, compte tenu de la situation qui prévaut actuellement en RDC, certes, le temps qui nous reste pour la tenue des élections présidentielles, on constate que la situation est loin de trouver une issue favorable, étant donné qu'au niveau de nos acteurs politiques, chacun campe sur sa position au sujet du fameux dialogue envisagé. L'important pour ces organisations, si réellement elles veulent mettre fin au flou qui s'observe dans le processus créé délibérément à cause de la mauvaise volonté politique des dirigeants en place, c'est de financer les élections comme cela était le cas en 2006, mettant ainsi fait au prétexte des moyens qu'avance souvent le gouvernement. Voilà ce qui peut favoriser l'organisation des élections dans les délais et épargner les pays des chaos liés à cette question.
Réaction, honorable Dieudonné Monzé.
Non, madame, je crois qu'il faut préciser d'abord une chose, l'opportunité d'y communiquer avant de répondre à la question de notre frère, le compatriote de Bukavu, au sud Kivu.
Allez-y.
Je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut préciser, opportunité de se communiquer. Le 16 février 1992, aujourd'hui 16 février 2016, et j'entends l'analyste politique qualifier ça de date conflictuelle. Non, il n'y a rien de date conflictuelle, cette date. Qu'est-ce que cette date vient faire avec le régime de Kabila? Nous n'y sommes pour rien. Et je pense que si la date doit être conflictuelle, c'est avec l'opposition, notamment le G7, puisqu'il y a ceux qui sont dans le G7 et qui ont été aux affaires lorsqu'on a tué les chrétiens en 1992.
Madame, là,
s'il vous plaît, je précise. Mais pour la première fois, vous m'avez retiré la parole, je n'ai pas eu assez de temps.
Vous allez réagir.
Si l'honorable
peut être tolérant.
Ne restez pas dans les questions que vous posez. Alors là, ça ne va pas.
Non,
je précise pas que
c'est dans le cadre.
Aujourd'hui, il y a un ministre qui est en justice.
S'il vous plaît, honorable Molichot, respectons le temps des autres. Vous avez la parole.
Merci bien. J'espère que vous me protégez bien. Et l'honorable Molichot doit quand même respecter le principe démocratique de la tolérance. Donc, je confirme qu'à ce moment-là, il y avait ceux qui étaient aux affaires pendant le régime de Mobutu et pour la réouverture des travaux de la conférence nationale souveraine, ont été aux affaires, mais aujourd'hui ils sont dans les G7 et ils lisent les communiqués. Je précise également que les membres des G7 n'ont pas tous démissionné facilement, comme l'honorable Moulicho le dit. Il y a ceux qui ont été révoqués, vous le savez, vous êtes de la presse, mais d'autres ont été poussés difficilement à la démission. Ce sont des choses qu'on doit dire à notre peuple. Il ne faudra pas que l'on puisse se voiler. Et le facilitateur dont on parle, que ce soit Edem Kodjo ou quelqu'un d'autre, n'est pas un facilitateur de Joseph Kabila ou de président de la République. S'il ne dépendait que de Joseph Kabila, on n'aurait pas de facilitateur, puisque le dialogue, il est essentiellement national. Et le dialogue concerne les Congolais. Mais c'était à la demande de cette opposition, une frange de l'opposition qui avait préféré que pour une raison ou une autre, on puisse avoir une facilitation internationale.
Je reviens
à cette question. Il est important. Donc, notre frère de Bukavu doit comprendre que nous ne campons pas sur l'opposition. Nous sommes d'accord et nous comprenons que le G7 dit la même chose que nous. Donc, nous n'avons pas à camper à notre position.
Cet auditeur pense que c'est la majorité. Vous qui êtes entretenez le flou sur le processus électoral.
Non, nous, on n'entretient pas le flou. Et d'ailleurs, madame, je crois que nous parlons français, nous entendons bien. On ne peut pas négocier avec quelqu'un sans dialoguer avec lui. Négocier, c'est d'abord dialoguer aussi. Et l'honorable Moulicho a eu des mots juste pour le dire. Ça veut dire qu'il s'agit de deux camps ou plusieurs qui ont des positions différentes et qui se mettent autour d'une table pour dégager un consensus. C'est ça négocier. C'est-à-dire chacun avance ses arguments, l'autre avance également ses arguments et de tous ces arguments, on dégage un argument commun. Et c'est ça ce que nous appelons dialoguer. Et je crois que là, nous ne sommes pas... Nous avons dit quoi le dialogue? Puisque là, j'entends que c'est un problème de contenant et réellement, c'est un problème de contenant. Le contenant, c'est quoi? C'est-à-dire, on veut voir est-ce que c'est dialogue, est-ce que c'est négociation. Mais l'objectif est le même. Et là, nous parlons le même langage. C'est-à-dire, nous voulons arriver à un consensus politique ensemble. Que ce soit par un dialogue politique nationale inclusive, que ce soit par des négociations politiques paritaires, comme ils le disent. Ils disent, ils ajoutent même direct, comme si les dialogues avaient des négociations indirectes. Ça veut dire simplement que nous allons réellement aboutir à un consensus, puisqu'après avoir négocié, après avoir dialogué, après avoir échangé, nous finirons nécessairement par dégager un consensus. Ce qui est important, et là l'analyste l'a dit, c'est que nous sommes d'accord avec le G7 que nous devons nous rencontrer. Et là, le docteur Moulicho est d'accord, l'honorable Moulicho.
Alors, dans leur...
nous allons nous rencontrer. Ce qui est encore important, c'est que nous allons nous parler.
Monsieur
que ça soit appelé dialogue ou négociation,
S'il vous plaît, Monsieur Meunier, dans leur communiqué, le G7 considère que l'organisation des scrutins à bonne date et qui voit les tenir dans les délais constitutionnels. Il rappelle par ailleurs que passer ce délai se créera la vacance du pouvoir au sommet de l'État et dont seul le président de la République portera la pleine responsabilité.
Non, je crois qu'il faut qu'on fasse une bonne interprétation. Il est clairement dit dans le communiqué des quatre organisations internationales que les élections doivent tenir compte en même temps de la Constitution, s'il vous plaît. Ça doit tenir compte en même temps de la Constitution pour renforcer la démocratie et consolider la démocratie et les progrès déjà acquis. Mais en même temps, les élections doivent se tenir à bonne date.
Ouais.
Et pour nous, nous pensons qu'à bonne date, ça veut dire une fois que les élections se tiennent à cette date-là, on ne peut pas avoir de problème dans le pays. C'est ça que nous appelons une bonne date.
Quelle
ça veut date? Dire que ça veut dire une date qui ne nous pose pas de problème.
La date
après,
prévue par
après
la Constitution.
Oui, mais non. Notre problème, c'est celui-ci, madame. Nous pensons, nous, chez nous, à la majorité, qu'on ne peut pas avoir le plaisir d'organiser des élections pour les élections. Notre démarche, c'est avoir des élections apaisées. Et là, ils le savent, les gens du CIESET, puisqu'ils étaient avec nous et ont pensé la même chose. Qu'après les événements de 2006 et les événements de 2011, il nous faut cette fois-ci baliser le chemin pour qu'on ait un processus électoral apaisé, crédible, acceptable par tout le monde, et où l'on diminuerait le plus possible les violences post-électorales. Et ça, ils le savent. C'est ça que nous disons à bonne date, c'est-à-dire une date qui nous permet d'avoir réellement un fichier électoral fiable, un fichier électoral fiabilisé et stabilisé, et qui nous permet d'affronter ces élections. Et là, nous n'y sommes pas. Nous n'y sommes pas encore. Et là, la CENI a été claire. Je crois que la CENI a parlé avec tout le monde. Et si nous voulons aller aux élections tout court avec le fichier de 2011, tant mieux, nous pouvons y aller. Mais
merci.
Si nous voulons aller
merci.
Avec
merci.
Un fichier stabilisé,
merci.
Il est impératif
merci,
que nous puissions avoir des élections réellement une
merci,
bonne date.
Merci, M. Mouzé. Joseph Kongolo, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
John Kamamou, depuis la ville de Kinshasa. L'organisation des élections en RDC est un problème de la bonne gestion politique qui a été mise à mal par l'homme politique congolais. Cependant, les temps n'étant plus à la faveur de ces élections, il est impératif aux politiciens de trouver un terrain propice à baliser le chemin pour de bonnes élections. Mais voilà que le G7, après avoir tiré en longueur les choses par des refus catégoriques du dialogue proposé par le chef de l'État, veut de nouveau faire son jeu par l'appel à des négociations directes entre des acteurs politiques. De ces faits, vu la pluralité d'opinions dans l'environnement politique congolais, il est difficile de réunir ces acteurs politiques dans un temps record. D'où cet appel est une nouvelle manière de faire traîner encore les choses sans solution au préalable.
Bien, merci Monsieur John pour la question. Au moins, il y a deux constats que nous pouvons faire, c'est que en dehors des élections de 2006 qui ont été pilotées pratiquement à 90% ou 80% par la communauté internationale, celle de 2011, nous avons constaté beaucoup de carences, beaucoup de faillites, ce qui montre la capacité congolaise, la capacité des institutions nationales, ou si vous voulez, de la société congolaise d'organiser les élections, ce sont des capacités très déplorables. Et aujourd'hui encore, à la veille, n'est-ce pas, de la troisième expérience électorale, nous sommes en train de constater encore une nouvelle fois des dysfonctionnements à tous les niveaux, et cela dénote assez clairement de l'incapacité des institutions, de l'incapacité des acteurs des institutions, de l'incapacité de la classe politique congolaise à se prendre en charge et organiser des élections qui soient crédibles aux yeux de la communauté internationale. Ça, c'est un problème encore beaucoup plus sérieux. Et ce qui est vrai, c'est qu'à travers toutes les propositions, de mon humble avis, le débat continue. Parce que ce que nous faisons, nous participons à un débat politique, c'est-à-dire qu'il y a au moins le curseur qui a changé. En parlant des négociations directes, au moins le mot est sorti, ça veut dire qu'il y a une avancée. Et c'est à force d'échanger qu'on peut arriver à trouver un consensus, n'est-ce pas, entre différents acteurs politiques. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en principe, il doit y avoir une structure intermédiaire qui doit à la fois canaliser les opinions des uns et des autres de manière à établir, oui, de manière à établir un fichier clair sur les désaccords. Parce qu'il faut qu'on sache qu'est-ce qui divise les uns et les autres. Et quand vous établissez ce fichier par un groupe intermédiaire, je crois que l'Église catholique l'a fait, mais je ne sais pas s'il y a eu du suivi. Et si on arrive à établir, n'est-ce pas, ce fichier assez clairement sur les désaccords entre différents acteurs, on sait maintenant analyser, voire encore faire encore un deuxième tour de contact pour pouvoir converger vers des désaccords officiels qui peuvent permettre de mettre les différents acteurs ensemble. Mais là, ça se fait chacun de son côté. Et tout ça, il n'y a pas une structure intermédiaire qui puisse récolter les opinions des uns et des autres, n'est-ce pas, en profondeur, de manière à les analyser et orienter, n'est-ce pas, les contacts entre différents acteurs pour trouver un chemin vers la solution.
Entre-temps, le temps passe. Les élections tel que prévu par la Constitution. C'est au mois de novembre, les acteurs politiques se tiraillent encore sur dialogue ou pas dialogue, négociation ou pas négociation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire évoluer le processus électoral qui semble être bloqué?
Madame, c'est le comble de la politique. C'est un terrain où nous avons besoin d'artistes. Nous avons besoin des comédiens, des metteurs en scène. Effectivement, écoutez, la régularité du processus électoral, c'est une garantie de la consolidation de la démocratie. Il était bien connu, à partir de 2011, qu'on devait préparer les élections en 2016. Ça n'a pas été fait. On a rappelé à des moments, à des intervalles réguliers, au régime qui dirige pour organiser les élections. Malheureusement, ça a été pris avec beaucoup plus de négligence et voilà, le temps s'est écoulé. Aujourd'hui, nous sommes obligés de faire avec la situation telle qu'elle se présente. Et là, il faut que le génie bâtisseur qui se trouve dans chacun des acteurs politiques qui portent des diplômes d'université, il y a des émérites, des professeurs ordinaires, ils doivent aujourd'hui dégager ce bâtisseur qui repose dans chacun de nous de manière à trouver solution devant cette situation. Je crois que ça va essayer de nous donner de la crédibilité aux yeux de la communauté internationale si la classe politique se met ensemble, n'est-ce pas, pour trouver un chemin de lumière qui nous amène vers la consolidation de la démocratie et le respect du pacte républicain. Je crois que c'est très noble. Et nos acteurs politiques, nous les attendrons sur le terrain.
Alors, nous sommes au mois de février, disons mars, parce que la semaine prochaine, c'est déjà le mois de mars. Oui. Si les acteurs politiques se décident de se mettre ensemble, vous pensez que le délai constitutionnel sera respecté?
Il y a une possibilité, de mon humble avis, je ne suis pas technicien des élections, mais il y a une possibilité. Je crois que le président de la CENI l'a dit. Il a dit que si les acteurs politiques se mettent d'accord sur le fichier électoral de 2011, eh ben, on va faire les élections dans les délais constitutionnels. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de problème. Alors, c'est pourquoi nous disons que quelque part, on a pris cette CENI en otage par les acteurs politiques. Lui attend un accord, n'est-ce pas? Mais cela ne l'empêche pas de faire d'autres opérations électorales qui ne demandent pas absolument un accord politique. Mais je crois que les acteurs politiques, s'ils peuvent se mettre ensemble, je crois sûrement qu'il va se dégager une solution. Ou soit, ils optent pour le fichier électoral de 2011. En ce moment-là, on va le nettoyer comme je crois que la francophonie a fait un travail là-dessus, sur la viabilisation du fichier électoral. On peut encore refaire le même travail pour le faire. Tout dépend de la position de ceux qui vont s'entendre.
Merci Joseph Kongolo. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. On va considérer celle-ci comme votre conclusion.
Merci,
docteur Didier Molichaud, un mot en guise de conclusion.
Madame, pour nous, ces dialogues tels qu'il est soutenu par la majorité présidentielle, nous disons non à ces dialogues forums. Nous disons oui pour des discussions entre acteurs politiques sur 1. Comment tenir les élections dans le délai constitutionnel? 2. Comment éviter au pays de tomber dans le risque de après le 19 décembre. Donc pour nous,
Vous pensez que ça va faire évoluer le processus électoral?
Oui, bien sûr que ça va faire évoluer le processus électoral, comme notre ami Joseph vient de dire ici. Ces négociations, c'est pour dire, allons aux élections avec le fichier de 2011 fiabilisé, enrôlons les majeurs et organisons les élections dans le délai. Parce que si on n'organise pas dans le délai, c'est ce que les gens de la majorité oublient. On ne va pas donner la prime à quelqu'un qui n'a pas fait son travail. Les 19, le président de la République se retrouvera dans une situation de fin mandat.
Merci.
Je voulais placer juste un mot pour dire à notre ami Dieudonné, il ne faut pas venir sur le plateau pour dire des contre-vérités. Les gens du G7 n'ont jamais été au pouvoir en 92.
Merci.
Il fait allusion au président Moindo, il était dans l'opposition.
Merci Didier Molichaud. Merci Didier Molichaud. Dieudonné, c'est votre conclusion.
Non, je crois qu'il faut que l'on précise les choses. Je voudrais d'abord rappeler que le dialogue dont on parle aujourd'hui provient de l'accord cadre de paix d'Addis Abeba et de la résolution 2098 dans son point B.14 où il est écrit clairement qu'il faut promouvoir le dialogue entre toutes les parties prenantes. Un dialogue sans exclusive. Je crois que le mot dialogue n'est pas un mot magique que le président Joseph Kabila aurait inventé, mais il le tient des textes. Là, on ne parle pas de concertation. Je voudrais également rappeler que dans le point 4 du communiqué des presse des G7, il s'agit là, noir sur blanc, d'un coup d'État constitutionnel. Il y rappelle les articles 75 et 76 qui n'ont rien à faire avec le cas actuel. Je vous lis, s'il vous plaît, quelques
mots. On n'a plus beaucoup de temps, malheureusement.
Moi, je lis une phrase de l'article 75. Il est dit ceci. En cas de vacances pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif. Mais nous ne sommes pas dans ce cas-là. Il n'y a pas de décès, il n'y a pas d'empêchement.
Merci. Merci, Dieudonné Moïse.
Un dialogue qui implique également.
Merci, Dieudonné Moïse. C'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.